C'est l'heure de là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet et toujours le répondeur.
Bonsoir, Yann Desvreux. J'ai réécouté aujourd'hui en podcast l'émission sur Pierre Selle que vous avez diffusée hier. Et c'est une émission que j'avais déjà entendue lors de sa première diffusion en 93. Et cette émission m'avait fait un effet bizarre parce que, on va remonter un petit peu plus en avant, j'avais un grand-oncle qui était curé en Alsace, une partie de ma famille qui est alsacienne, ça arrive. Et ce brave monsieur n'aimait pas trop les Allemands et a eu quelques ennuis avec l'autorité allemande parce qu'il continuait à parler français alors que c'était interdit. Et il a donc fait un petit séjour du côté du camp de Schirmeck. Et lorsque je l'avais revu la toute dernière fois, c'était en 90, un peu après la naissance de ma fille, j'étais allé lui rendre visite ainsi qu'à ses frères et sœurs, et il m'avait raconté une anecdote très brève comme ça lors d'une balade l'après-midi. Il m'avait dit qu'il avait été au camp de Schirmeck et qu'il avait vu quelqu'un se faire dévorer par des chiens alors qu'on lui avait mis un seau sur la tête. Et vous n'imaginez pas à quel point de réentendre cette anecdote, mais cette fois-ci racontée par Pierre Selle, 3 ans plus tard, le relief que ça a donné, c'était très très impressionnant. Voilà, c'est juste pour communiquer ça. C'est tout d'un coup cette anecdote vue par 2 angles différents, sans doute par 2 personnes qui ne se sont peut-être même jamais parlé, prenait un relief très très impressionnant. Voilà. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.
Bonjour. Je téléphonais suite à l'émission d'aujourd'hui sur ArcelorMittal, parce que moi-même je suis ouvrier. J'ai commencé à travailler à Creuse-Loire-Saint-Chamond à 17 ans. Et comme disait mon père, dans la famille, on est proles de père en fils. Voilà, donc les proles, hein, les ouvriers, mon père les appelait les proles. Donc les proles, je connais. Et franchement, ça m'attriste d'entendre des gens, des proles, hein, des ouvriers, qui applaudissent Sarkozy. Franchement, ça m'attriste et je trouve ça lamentable. Lamentable parce que qu'est-ce qu'on attend de lui? Qu'est-ce que les ouvriers peuvent attendre d'un personnage pareil? Hein, les ouvriers, ils ont oublié l'international. Il n'y a pas de sauveur suprême. Ça n'existe pas, ça. Et moi, j'ai travaillé des années et des années. Hein, et je travaille dans les usines. Et parfois, j'ai honte. J'ai honte du prolétariat. J'ai honte d'être ouvrier. Parce que quand je vois ces gens-là qui se couchent, qui ne parlent qu'il faudrait essayer Marine, il faudrait essayer Marine. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Il faudrait que réfléchir et puis se bouger un peu. Est-ce que c'est de la bêtise? Est-ce que c'est de l'ignorance? Je ne sais pas. Mais enfin, les ouvriers, hein, Sarko, il n'est pas de notre bord. Alors, si on veut quelque chose, c'est nous qui l'obtiendrons. Il n'y a que ça, il n'y a que la bagarre, il n'y a que ça. Voilà, c'était Paul de Vaux-en-Velin. Au revoir à tous.
Bonjour Daniel, j'écoute ton émission aujourd'hui sur Gandrange et je ne peux pas m'empêcher de penser que ton émission sert indirectement à remplir les rangs des partis de nauséabonds que tu défends. Parce que après cette émission, j'espère qu'il y en aura une deuxième pour que tu puisses interroger les partis politiques sur leurs solutions pour éviter la désindustrialisation de notre pays. Tu vois, et il faut espérer aussi qu'un jour, les nauséabonds que nous sommes ne prendront pas le pouvoir, parce qu'à ce moment-là, bah, ça ira mal pour ceux qui nous ont maltraités.
Bonjour, ici Monique, je vous téléphone de Luxembourgville. Je reçois facilement votre émission, je suis tombée sur... cet après-midi, je suis arrivée un peu en retard, mais j'ai quand même entendu une partie de votre émission sur Gandrange. Je l'ai trouvée excellente. Je vous téléphone pour vous dire que j'ai entendu le témoignage de Christian Corrouge et j'ai été très très impressionnée. J'ai proposé l'achat du livre « Résister à la chaîne » à la Bibliothèque municipale de Luxembourgville. La commission de lecture a étudié les propositions faites par les lecteurs. Elle a accepté. Je suis heureuse de vous dire que le livre « Résister à la chaîne » se trouve à la Bibliothèque municipale de Luxembourgville, Luxembourg qui n'est pas très loin de Gandrange. Ce livre est absolument extraordinaire. Je suis bouleversée. J'en suis à la page 327, je n'ai pas fini et je dois bientôt le rendre à la bibliothèque. J'encourage tout le monde à lire ce livre. extraordinaire intitulé « Résister à la chaîne ». Au revoir, merci beaucoup pour votre émission et merci de donner la parole aux auditeurs. Au revoir, Monique de Luxembourg.
Merci Monique de Luxembourg, merci à toutes et à tous. Je vous avoue que Monique, j'avais prévenu Christian Corrouge en lui disant « Écoute, il y a un message pour toi, merci pour vos messages ». Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va parler des ouvriers. Ah, j'ai une question à vous poser. Combien d'ouvriers en France, selon vous? Allez-y, combien? On a fait le test ce matin dans le bureau de là-bas, si j'y suis, et c'est allé entre 100 000 et 2 millions. Je crois que le maximum, ça a été 2 millions. Eh bien, le vrai chiffre, c'est 6 millions. 6 millions. Les ouvriers représentent 24% de la population active du pays. Et n'ont que 2% de représentation médiatique, selon l'Observatoire des inégalités. Voilà. Les ouvriers, les oubliés, c'était le titre d'une série d'émissions qu'on vous avait proposées il y a bien des années, au moins une dizaine d'années, les ouvriers, les oubliés, pour s'étonner de la disparition, au moins de la représentation de ce monde social, celui des ouvriers, qui fut si important. Pourquoi a-t-il disparu? Pourquoi avait-il disparu? Ça a été une grande question, avec des réponses nombreuses, mais jamais tout à fait convaincantes. Et vous vous souvenez peut-être qu'en 2002, lors de la campagne présidentielle de 2002, on avait observé, quelqu'un avait observé, que le candidat Lionel Jospin, jamais dans ses interventions ni ses discours, n'avait prononcé le mot « ouvrier ». Jamais. Alors, dans cette campagne actuelle, on entend à nouveau ce mot « ouvrier ». Mais alors, on l'entend où ? On l'entend dans la bouche de Marine Le Pen, on l'entend dans les discours de Jean-Luc Mélenchon, on l'entend sans doute dans les cauchemars de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, les ouvriers, on va les entendre dans « Là-bas, si j'y suis », avec deux réalisateurs de films documentaires qui ont chacun consacré un film à la condition ouvrière, au monde ouvrier aujourd'hui. Olivier Azam, qui a réalisé un film « Grand Puits, Petite Victoire », qui raconte la mobilisation de Grand Puits, de la raffinerie de Grand Puits, en octobre 2010. Vous vous souvenez, octobre 2010, les mobilisations, les retraites, etc. Il y a eu beaucoup de médias à ce moment-là, toute une mousse médiatique. Et puis après, l'oubli total. Alors Olivier Azam, lui, s'est entêté et produit ce film et le présente un peu partout avec pas mal de succès. Et puis Gilles Perret, qui présente qui sort à partir de demain, un film qui s'appelle « Deux mémoires d'ouvriers ». Gilles Perret, son coin, c'est Annecy, c'est la Savoie, c'est la Maurienne, c'est son local, et toujours du local, il va vers le global. Et là, c'est les ouvriers, la mémoire des ouvriers et l'actualité aujourd'hui du monde ouvrier dans cette région de France, au moment, bien sûr, où les candidats se succèdent aux portes des usines. Enfin, c'est pas non plus l'affluence, mais il y a quand même un peu d'intérêt pour ce monde-là. C'est le moment où il y a un certain intérêt, le moment où les journalistes suffoqués et effrayés disent « Oh là là, c'est terrible !» Les ouvriers vont voter pour le Front National. Alors tout d'un coup, ça les saisit d'effroi. Ça, c'est un moment où le mot « ouvrier » est entendu dans les médias. Et puis, il y a quand même un autre moment, au moment des plans sociaux, encore que on les évoque de moins en moins, sauf s'il y a des événements violents, des prises d'otages ou des menaces quelconques. À ce moment-là, à nouveau, le mot « ouvrier » est entendu. Et on va l'entendre jusqu'à 16h. Dans la basse, si j'y suis, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
À l'occasion du projet d'étude de caméras de vidéosurveillance du maire de Bressuire, le prochain Café Repère aura lieu sur ce thème, ouvert à tous, vendredi 2 mars à partir de 19h30 au bar Le Gorillaz, passage de la Poste, rue de la Vergne, à Bressuire. Venez nombreux, salut.
Bonsoir, c'est Pierre à La Roche-sur-Yon. Pour rappeler que les Vendéens de Chalons, Normandais et alentours se réuniront ce mercredi, le dernier du mois, au bar Le Danube à 20h, donc ce mercredi, le dernier du mois, comme tous les mercredis, dernier du mois. Le sujet, ce sera naturellement la campagne. Voilà, on se le dit alentour et à mercredi.
Salut, c'est Ira de Budapest. J'ai entendu une dame qui demande des infos sur le Café Repère de Budapest. Vous trouvez toutes les infos sur la page Facebook en tapant Café Repère Budapest. Et le prochain rendez-vous sera ce vendredi, le 2 mars, à 18h au Café Frisco. Bye bye, au revoir, à bientôt. C'était Ira, de Budapest.
Bonjour, je viens de recevoir Fakir et je lis la une. À Chili, à Paty, Calvi, l'anglais, les voleurs de débat. Mais ils ne doivent pas être au courant, sans doute, que Dujardin a eu un Oscar. Hein. Allez, voilà, Fakir, un journal pas comme les autres, effectivement. Au revoir.
Salut les AMG de Vesoul et ses environs. Ce soir, Café Repère au Shadow, à Vesoul, à 20h. Voilà, nous allons évoquer l'actualité, certainement l'histoire de la précarité. Et puis l'éternelle question, que faire? Venez nombreux, on vous attend.
Bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Pour faire suite à l'émission diffusée ce jour sur Grande Range, je tiens à informer les auditeurs que nous jouons depuis 2 ans un spectacle qui s'intitule « Métallo et dégraisseur ». Spectacle dans lequel il est fortement question du mensonge de Grande Range, du mensonge de Sarkozy. C'est un spectacle qui a été écrit et mis en scène par Patrick Grégoire à partir d'interviews d'ouvriers retraités et actifs d'une usine qui vient d'être rachetée par ArcelorMittal dans le nord de la Bourgogne, donc une usine qui est passée de 500 ouvriers à 600. Et ce spectacle évoque un petit peu l'histoire de l'industrie en France depuis 2 siècles. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos en tapant tout simplement métallo et dégraisseur sur Internet. Voilà, c'était Raphaël à Anneau. Et courage les gars, et puis luttons, et puis si vous le souhaitez, on peut aller jouer dans vos coins. À très bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Olivier Azam et Gilles Perret, les ouvriers, les oubliés. Flight number 2, arriving from New York. Eh, vous avez dû passer par là en allant au ski. Et vous allez y passer Cluse. Oh ben oui, quand même, Cluse en Haute-Savoie. Alors le film de Gilles Perret commence là, au centre de Cluse en Haute-Savoie. Et on pose une question aux passants. Vous savez ce qu'il y avait là, ici, autrefois, il y avait une usine. Et en 1904, vous le saviez, lors d'une grève, des patrons tiraient sur des ouvriers. Ah, personne ne savait ça. Personne. Ah, sauf si, tiens. Ah, en voilà. Voilà un passant qui le sait. Mais c'est bien rare. Un passant qui sait cette chose-là. La mémoire ouvrière, la mémoire sociale. On pourrait faire ça partout en France. Partout où des événements liés à notre histoire sociale se sont produits, on trouverait la même ignorance, le même silence. Notre histoire sociale n'est pas racontée, l'histoire des conquêtes sociales, l'histoire des succès comme des défaites n'est tout simplement pas racontée. Quand on discute avec des responsables d'édition, de programmation, des producteurs de films, tous ces gens extrêmement importants, ils ont tous un souci commun, c'est celui de produire des choses, des textes, des films qui puissent être compris par tous, bien évidemment, et qui concernent tout le monde, qui parlent à tout le monde. Alors on cherche des sujets, on dit, ah bah oui, il faudrait une histoire d'amour, là, parce que tout le monde est touché, puis une histoire de chômage, parce que tout le monde est touché, puis parce que, etc. Alors, ben voilà un truc formidable, le monde ouvrier, le monde, ça c'est un monde que tout le monde connaît. 6 millions d'ouvriers en France, ça en fait du monde. Je ne parle pas des retraités, je ne parle pas de la mémoire, je parle de ces 6 millions. Ça en fait du monde. Voilà une matière, voilà des situations, voilà un monde qui pourrait constituer voilà des sujets de films, de romans. Eh ben non, non, puisque selon l'Observatoire des inégalités, pour 24% de la population active que constituent les ouvriers, il n'y a que 2% de représentation médiatique. Il y a quelque chose là d'un peu mystérieux. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une disparition au cours des années, dans les 30 dernières années, mettons, de ce monde social, celui des ouvriers, au point qu'on entende des choses, cette phrase qui a été prononcée par notre auditeur tout à l'heure en disant « Des fois, j'ai honte d'être un ouvrier. J'ai parfois honte d'être un ouvrier. » Eh bien, il n'est pas le seul. La fierté ouvrière, l'honneur ouvrier, l'idée d'appartenir de collaborer, de participer à de grandes épopées, à de grands progrès, toutes ces idées-là se sont peu à peu dégonflées, ternies, et pour draguer, ben, mieux vaut pas être un ouvrier, quoi. C'est pas la meilleure carte qu'on puisse avancer aujourd'hui. C'est pas ça dont on est le plus fier. Bien que, en ce moment, peut-être grâce à, entre guillemets, la crise, ce monde intéresse davantage les politiques, bien évidemment. Certains, pas tous. On vient de me faire observer que j'ai oublié qu'un certain Poutou parle aussi des ouvriers. Il n'est pas le seul quand même. Ce monde commence à poser des problèmes. Pourquoi a-t-il disparu? Où est-il passé? Est-ce qu'il s'est recomposé? Et de quelle façon? Il y a une dizaine d'années, deux sociologues, Beau et Pialou, Michel Beau et Stéphane Pialou, non pardon, Michel Pialou et Stéphane Beau, c'est comme mon combat des yeux, je me trompe dans les prénoms, avaient publié un livre remarquable sur Retour sur la condition ouvrière, un livre qui avait fait grand bruit. Ils viennent de le republier là aujourd'hui et ils s'interrogent sur les mutations de ce monde majeur, qu'on le veuille ou non, dans notre horizon social, dans nos compositions sociales et dans la dynamique politique de notre pays. Aujourd'hui, donc, avec ces deux réalisateurs, nous évoquons leurs films réciproques, des films produits dans des conditions difficiles, puisque l'un et l'autre sortent des réseaux habituels de distribution, c'est-à-dire qu'ils n'en passent pas par les fourches codines des télés, mais qu'ils arrivent quand même à distribuer leurs films et à toucher un public, souvent un public populaire. Les ouvriers, les oubliés, jusqu'à 16h, là-bas, j'y suis.
La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Pas trop demander un pays, il faut aller à la vitesse que permet le tissu social de notre pays. Pour l'instant, c'est ce que je fais.
Bon, bah alors on a l'un des héros du film en face de nous. Hein. C'est héros, acteur, l'une des vedettes, je ne dis pas la vedette, mais l'une des vedettes, c'est Christophe Gibert, mais c'est Totoff dans le film, et c'est Totoff pour ses copains, et c'est Totoff dans cette aventure qu'on va évoquer. Mais il n'y a pas que Totoff, il y a Roro, il y a tout un tas de gars, il n'y a pas tellement de filles dans votre histoire, qui se sont mobilisés, qui se sont battus comme des lions au mois d'octobre 2010 à Grandpuits, dans la région parisienne, en Seine-et-Marne. Grandpuits et Petite Victoire, c'est un documentaire d'Olivier Azam qu'il a tourné à cette époque. Octobre 2010, c'est il y a 3-4 siècles dans les mémoires, et c'est quelque chose qui est complètement effacé, dont on ne parle pas ou plus du tout. Et pourtant, au cours de ce mois d'octobre 2010, 6 ou 7 fois de suite, les Français sont descendus dans la rue. Et 7 fois de suite, 6 ou 7 fois de suite, je me souviens plus très précisément, il y a eu entre 1 et 2 millions de Français dans les rues. Qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces Français? En principe, c'était pour contester et protester contre le projet de réforme de l'âge de la retraite. Là, je pense que ça va évoquer quand même un peu de quelque chose dans les mémoires, qui passait de 60 ans à 62 ans. Mais on avait compris déjà à l'époque que la revendication, le mouvement social de l'automne 2010 dépassait cette seule cause qui, au départ, était un peu perdue. Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont gagné, ils ont marqué un but contre la société française qui, dans sa majorité, refusait cette réforme, mais il a gagné un peu comme un joueur de foot parviendrait à marquer un but, mais avec un revolver à la main, parce qu'il avait toute la force, toute la puissance, toute la violence symbolique de son côté, mais la lutte a eu lieu quand même. Je le dis encore, ça a dépassé évidemment le seul objectif de cette réforme des retraites, mais le phénomène, c'est que tout ça a été oublié. J'ai l'impression que c'est une autre époque. Or, quelqu'un a eu l'idée de filmer tout ça, de raconter tout ça, et c'est notre ami Olivier Azam qui a réalisé ce film Grandpuits et Petite Victoire, dont Christophe, en face de moi, est l'un des protagonistes. Christophe, on va se tutoyer parce que voilà, ça va être plus facile. Comment tu as vécu cette histoire ?
Alors, dans un premier temps, moi, j'ai connu surtout le tous ensemble, chose que j'avais jamais connue auparavant. J'avais pu, en face de moi, des collègues de travail. J'avais des amis, des copains, des frères, puisqu'on était pratiquement 24 heures sur 24 ensemble. On était tous dans la même galère, on était tous solidaires. Il y a eu aussi les gens qui venaient de différents secteurs. Ils venaient nous voir à la porte de l'usine en nous amenant des denrées alimentaires et des dons financiers. Ils venaient nous soutenir. Tous les jours aussi, on recevait des courriers, des mots de soutien, des chèques. Et donc ça, c'était vraiment... moi, ça m'a pris au trip, quoi. En disant, on est avec vous, continuez, on vous soutient, etc. Mmh. Donc ça peut que vous aider moralement. Et vous, à partir de là, vous n'êtes pas, en droit de lâcher. Parce que vous dites, nous, on est une certaine force et les gens, maintenant, comptent sur vous. Des grèves auparavant, on en avait fait, mais jamais ça, on est procédé comme ça. C'est-à-dire que là, il y a eu les médias qui sont arrivés tout de suite. Ensuite, il y a eu un site internet avec des dons. Et les dons représentaient quand même 200 000 euros.
Ouais,
donc, ça,
ouais.
Le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent.
Grandpuits et Petite Victoire, on est avec Olivier Azam et le réalisateur est Christophe Gibert, l'un des protagonistes de ce film. Mais est-ce que, sérieusement, au cours de ce mois d'octobre 2010, vous étiez mobilisé, vous avez été médiatisé, maintenant on a oublié, provisoirement, très probablement, je l'espère en tout cas, ces luttes et ces mobilisations de l'automne 2010. Mais est-ce qu'au cours de la lutte, vous pensiez sérieusement avoir une chance de faire reculer le gouvernement sur sa décision d'imposer la retraite à 62 ans?
Oui, on y a cru, parce que toute la France était à nos côtés. Et puis il y avait énormément de monde qui venait, on était partis à faire la grève, ça a duré 3 semaines, donc oui, évidemment, on se battait pour ça, en se disant on veut que cette réforme soit remise en question, etc. On y a cru, oui.
Et dans les rencontres que vous avez faites, parce que dans le film d'Olivier, on voit des gens qui viennent vous voir, tu dis les autres, tous les corps de métier étaient représentés, des gens de toutes sortes, des profs, des soutiens. Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Quelles sont les rencontres que tu as faites?
Ben que malgré qu'on se connaisse pas, malgré qu'on soit de différents secteurs, les gens finalement ont le même ressenti que vous. Et effectivement, c'était la réforme du régime des retraites, mais je dirais que c'est un ras-le-bol aussi général.
C'est ça.
Donc c'était le trop. Donc aussi bien en manifestation sur Paris que sur notre lieu de travail, à chaque fois les discussions ils tournaient autour de la même chose. Mmh. Et les gens en avaient ras-le-bol, les gens avaient envie de se battre, les gens ils étaient pas forcément dans des grosses structures comme nous, donc ils comptaient sur nous.
Il y a un plan intéressant, une séquence intéressante dans le film, c'est la réquisition. On revient à Pompidou, qui explique la nécessité de la réquisition et qui s'y prend exactement comme Sarkozy, qui dit « Bien sûr, nous respectons le droit de grève, c'est quelque chose d'acquis, on ne va pas retoucher à ça, puisque c'est dans la Constitution, mais c'est inadmissible que le public soit pris en otage, il est donc nécessaire de réquisitionner, etc. » On voit que Sarkozy reprend exactement l'argumentaire de Pompidou. Est-ce que cette réquisition, en octobre 2010, ça avait fait des gros titres, est-ce que ces réquisitions étaient légales ou non?
Alors, au jour d'aujourd'hui, Christophe. Au jour d'aujourd'hui, on sait que ça ne l'était pas.
C'est-à-dire que la CGT porte plainte dès la grève auprès de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, à Genève. Et donc, un an après, l'OIT fait son rendu et explique que ça avait été illégal. Et donc ça veut dire que maintenant il y a une jurisprudence, ça veut dire que la prochaine fois les syndicats vont pouvoir s'appuyer sur ce rendu pour dire non, vous ne pouvez pas réquisitionner dans ce cadre-là. Et alors une fois de plus on s'aperçoit que cette information est passée totalement inaperçue, alors que c'est quand même une grande victoire syndicale. Parce qu'un an après peut-être, mais n'empêche que ça donne raison aux syndicats l'année dernière, ça aurait fait en sorte que s'il n'y avait pas eu la réquisition, on sait que la réforme ne serait pas passée, parce que tout est en chaîne. Donc voilà, une info qui est capitale un an après, qui montre que la bataille aurait pu être gagnée à ce moment-là. Alors peut-être qu'elle sera gagnée la prochaine fois, mais c'est quand même encore un aveu de faiblesse du pouvoir qui a dû quand même employer une méthode illégale pour arrêter cette grève.
Dans la nuit, le préfet est venu signifier la réquisition de grévistes pour gratter les fonds de cuve. Il devenait urgent de servir les stations d'essence pour les départs en vacances. Mais c'est surtout une bonne occasion de casser la grève.
On met le brancard à côté.
S'il vous plaît.
Monsieur Nicolas Sarkozy a décidé la guerre aux acquis sociaux, décidé la guerre aux organisations syndicales. Maintenant, il en a assumé les conséquences. Il a décidé le bras de fer. Ce qui se passait aujourd'hui est très grave. On en a le gros sur la patate. Mais vous savez, nous, la CGT, les salariés mobilisés, on a le gros sur la patate un coup. Mais quand on se relève encore plus fort.
Bravo. Bon, je dis d'ailleurs de la même façon, très gentiment, pour qu'on m'entende, que je peux comprendre les inquiétudes et les protestations, mais que je ne peux pas accepter qu'on prenne en otage le travail de millions de Français qui n'y sont pour rien.
En fait, la réquisition, c'est une vieille histoire. À plusieurs reprises, des gouvernements ont essayé de casser le droit de grève, comme ici, en mars 1963, quand De Gaulle avait essayé de briser la grève des mineurs des houillères à coup de réquisition.
Réponse du gouvernement, réquisition générale. Celui
de la réquisition. La droite tenait à peu près le même discours qu'aujourd'hui.
Voilà, on continue avec Olivier Azam, le réalisateur, et Christophe Gibert, l'un des héros du film Grand Puits et Petite Victoire, qu'on peut voir partout en France en cherchant un petit peu. Olivier, le problème et le paradoxe des documentaristes dans ton genre, c'est d'essayer de sortir du cercle assez fermé des spectateurs. Le documentaire s'adresse, marche pas mal en France, mais s'adresse à un public limité. Et ton idée, depuis longtemps, je te connais, c'est de sortir de ce cercle pour, pour toucher la classe populaire, disons, des gens qui n'ont pas l'habitude de ce langage, qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des salles de cinéma voir des documentaires sur la vie ouvrière, ni d'assister à des débats, etc. Et là, ça marche. Là, ça marche, c'est-à-dire que le film a une vie, il y a des projections, il y a des débats, et des débats souvent avec des salariés, avec des ouvriers, avec des syndiqués de toutes sortes. Est-ce que ça castagne, Christophe, les débats, ou est-ce que tout le monde applaudit, bravo, en rang, ça doit chauffer quand même, non ?
Alors, il y a un peu de tout ça, et moi, personnellement, c'est que du bonheur. Ça me permet, donc je me déplace énormément avec Olivier, et à chaque fois, c'est vraiment avec très très grand plaisir. Effectivement, donc il y a plusieurs étiquettes syndicales, et des fois, c'est des petites remises en cause, ils chamaillent. Ouais. Donc il faut apprendre à gérer ça, quoi. Mais oui, c'est pas évident, des marges, quand vous retrouvez en face de 100 à 150 personnes, mais par contre, les débats, voilà, c'est fantastique, quoi. Il y a toujours des échanges. Donc on nous pose énormément de questions et on est applaudi malgré tout ça, quoi.
Ouais. Alors, il y a une suite à ça, donc les débats. Et là, vous avez fait une rencontre en Belgique. Vous êtes allé voir les syndicalistes belges.
Voilà, donc on est parti 4 jours en Belgique, où Olivier Hazard a diffusé son film avec les débats, comme à l'habitude. Et là, on a eu un accueil, mais plus que chaleureux. Et j'ai appris que le 31 janvier, ils étaient en grève générale. Donc on y retournait, on a fait l'aller-retour et on est allé voir les camarades qui nous avaient soutenus de Total Feluy Petrochimical. Ça c'était en Belgique. Donc c'est ma façon aussi de pouvoir les remercier. Et donc du coup maintenant on a des contacts.
Ça va et vous ?
On est deux, on vient de la raffinerie Total de Grandville, la Seine-et-Marne. On fait l'aller-retour pour vous soutenir aujourd'hui et vous remercier essentiellement du soutien qu'on a pu avoir de votre part en octobre 2010, quand on a fait 3 semaines de grève. Donc si tu veux, pour la petite histoire, c'est que nous on a été réquisitionnés, on avait bloqué toute la raffinerie, on a été poussé par les CRS et à un moment donné, le gasoil il arrivait quand même des pays étrangers. Et la Belgique, essentiellement, et a dit stop, par soutien, on ne charge pas les camions. Donc là, c'était énorme, énorme, énorme. Et vous nous avez redonné vraiment un gros souffle parce qu'on était au fond du puits. On s'est dit, on se bat pour défendre nos droits. Et finalement, ils arrivent, malgré tout ça...
Ils contournent via la mondialisation.
Voilà, ils arrivent à contourner et à faire venir le gasoil d'autre part. Finalement, même moi, en tant qu'être humain, j'étais vraiment au fond du trou. Je me suis dit, c'est pas possible, ils ont vraiment toutes les pièces du jeu. Et on n'est rien, on n'est vraiment rien. Et quand on a eu votre truc, votre soutien, le fait que vous chargiez pas les camions français... Mais là, si tu veux, tu m'as remis le truc. Ah oui, le palpitant, il est reparti.
En Belgique, on en a parlé aussi du blocage des dépôts par rapport aux camions.
C'est grâce à vous.
Ça m'a fait plaisir que tu es venu comme moi.
Non, merci à vous. Et tous tes collègues de chez Total et même ceux autour, surtout tu leur fais la bise de ma part. Et tu leur dis qu'ils veulent vraiment.
Vous allez les rencontrer aussi.
Merci, un grand merci.
En ce qui nous concerne, nous, de toute façon, notre rêve ou notre fantasme, c'est si vous avez encore à l'avenir à rencontrer le type de conflit que vous avez eu, mais c'est de créer des espaces de solidarité entre les différents sites.
Grand puits et petite victoire qu'on peut voir partout en France en cherchant un petit peu et avec l'envie de participer aux débats qui suivent le film. Il y a aussi une autre séquence qui concerne la grève générale, hein, dans les manifs, vous l'avez entendu, grève générale. Et là, Olivier a poussé un peu l'analyse, rétrospective, un bref historique de l'histoire de la grève générale entre Émile Pouget et Jean Jaurès. Je trouve ça très intéressant de voir que c'est un vieux thème qui revient dans les luttes.
C'est vrai que dans le film, on a fait souvent des remises en perspective historique parce que ça nous semblait important après coup, c'est ça le boulot après coup, de remettre en perspective les luttes, dont l'histoire de la grève générale, qui est un truc qui revient depuis quelques années, c'est pas si vieux que ça, si on se rappelle bien, que ça revient dans les manifs, ça avait été un peu oublié, et qui est une vieille idée du début du syndicalisme, du début du siècle, de ce qu'on appelle le syndicalisme révolutionnaire, de début de la CGT en 1906, en fait les années avant Première Guerre. Et donc là-dessus, on voit que c'est une vieille idée, mais qui n'est pas forcément consciente parce qu'elle revient comme un slogan et que au fur et à mesure qu'elle revient, on ne se rend pas compte que ça porte derrière soi toute l'idée de la reprise en main des outils de production par les ouvriers. Au-delà de la grève des bras croisés, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est la notion d'autogestion, etc. Et donc, ça, c'est une question qui revient quand même maintenant dans le débat, finalement. On parle de... à Florange, les ouvriers sont en train de parler de reprendre en main l'usine. Enfin, on voit que finalement, cette idée-là, qui n'est pas forcément connectée dans les têtes au moment des slogans dans les manifs, elle est quand même pas loin. Et nous, dans les débats, sans arrêt, on entend « Mais pourquoi il n'y a pas eu de grève générale ?» Et « Pourquoi il n'y a pas eu de grève générale ?» Alors évidemment, il y a toujours cette vieille histoire de critiquer les organisations syndicales, mais pourquoi les directions n'ont pas appelé à... Et puis, il y a quand même cette réalité qui fait que la grève générale, elle ne s'est jamais décrétée par en haut. Elle a toujours été faite comme ça. D'abord, ça arrivait très rarement dans l'histoire, il y a eu 36 et 1068, mais qu'à chaque fois, cette idée, elle a pris toute seule. Quoi. Donc c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et nous, on continue d'ailleurs à travailler sur ce truc-là, parce que c'est, historiquement, peu de gens savent un peu d'où ça vient, cette histoire.
Finalement, Christophe, à la fin du film, et puis aujourd'hui, plus d'un an après, j'aimerais savoir votre sentiment à... est-ce que c'est gagné? Est-ce que c'est perdu? Est-ce que c'est évidemment que c'est un beau souvenir parce que vous vous êtes battu et à chaque fois qu'on se bat, ben voilà. Bon, mais est-ce que c'est un match gagné ou un match perdu? Voilà.
Alors on n'a pas gagné, on s'est battu pour gagner, mais au jour d'aujourd'hui, je dirais que on a une expérience maintenant grâce à ça. Pour nous, c'était tout nouveau et la prochaine fois, on sait un petit peu. On a déjà des outils. On a des contacts à l'étranger, on a des contacts un petit peu partout qu'on a gardés, et on aura une autre façon de faire. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas au fond du trou, on est en mode pause, et la machine...
Le mode pause.
Mode pause, oui, ouais, tout à fait, ouais, parce que...
On a reconstituer des forces en silence.
Tout à fait, c'est-à-dire que on mène notre petite vie syndicale tout tranquillement, mais quand il va falloir redémarrer la machine pour se battre, je dirais que là, ça va être encore, pour moi, plus fort. Sur le pilier de grève, il y avait des gens de la CFDT, il y en avait d'autres de la CGT, il y avait des gens qui n'étaient pas cartés, donc on était vraiment tous ensemble. On a fait des cartes derrière ça, et là, ça demande qu'à redémarrer. On s'aperçoit que partout où on peut passer, les gens sont prêts. Ils ont tendance, tout le monde attend tout le monde, et donc c'est pour ça, pour moi, qu'ils réclament la grève générale. La grève générale, c'est tout le monde ensemble, et peut-être que c'est le point fort.
C'est la lutte finale, groupe pour nous. Et demain, l'international sera le genre humain.
Voilà le premier film dont on voulait parler aujourd'hui, Grand Prix, Petite Victoire d'Olivier Azam. On vous indiquera sur le site, sur la page France Inter de la base où j'y suis, comment voir ce film et où le voir en ce moment. Deuxième film de mémoire d'ouvrier, un film de Gilles Perret qui sort demain en France, mais qui a déjà été vu, pour ne rien vous cacher, par les gens, les spectateurs de la région d'origine de Gilles Perret, c'est-à-dire la Savoie, la Haute-Savoie, dont il est originaire, et qui est le sujet du film. Pas les grands paysages, pas le folklore, ni les skis, mais les ouvriers, tous ceux qui ont fait cette région dans la mémoire, et aussi dans le présent du monde ouvrier.
La génération qui est venue après nous...
Henri Morandini.
Je pense que c'est un peu de notre faute, parce qu'on les a peut-être trop gâtés et pas assez éduqués.
Ouvrier à l'usine de Labatique, Savoie.
On n'a pas pensé que nos exploiteurs, ils étaient toujours en face avec les crocs ouverts. On a eu un peu bien-être, de modernistes, d'accord. Mais je pense qu'on ne les a pas assez prévenus et pas assez éduqués. Parce que les requins, ils sont toujours en face. Et ils n'en ont jamais assez. Tout ce que nos aînés, ils ont obtenu à la libération, et nous, qu'on a défendu aujourd'hui, ils reprennent tout. Tout doucement, ils reprennent tout. Ils sont toujours là. Aujourd'hui, c'est l'individualiste à bloc. Chacun pour soi. Déjà, quand ils ont instauré les primes personnelles, il n'y a plus personne qui faisait voir sa fiche de paye. Même dans l'équipe de maçon qu'on était. Là-haut, c'était vraiment 100% la main dans la main on se battait, on va se faire payer, point. Si ça avait été partout comme ça, il jouerait peut-être moins à la bourse.
Alors, Gilles Perret, de Mémoire d'ouvrier, c'est le nouveau film qui sort, qui est déjà un peu sorti. Vous allez nous dire pourquoi il est déjà sorti et comment il est déjà sorti. Et c'est un film, on a compris d'après le titre, sur les ouvriers. Et il y a une première question à poser que vous ne manquez pas de poser. Combien d'ouvriers en France ? Et cette question, elle a été posée pendant des années par deux sociologues que les auditeurs de la Basse, j'y suis, connaissent bien, qui sont Stéphane Beau et Michel Pialoux, à partir de leur travail sur la condition ouvrière, leur fameux bouquin « Retour sur la condition ouvrière », où ils ont régulièrement posé la question « Combien d'ouvriers en France ?» Et j'ai fait le test tout à l'heure avec mon équipe. C'est allé de 100 000 à 2 millions. C'est pas
100,
mal. Quoi.
100 000, ils n'étaient pas généreux quand même.
100 000, hein. C'est pas très généreux. Inter, hein. On est arrivé à 2 millions. Mm-hmm. Or, le chiffre toujours avancé par Stéphane Beau et Michel Pialoux, c'est 6 millions. Et vous prenez ça un peu comme point de départ sur cette disparition des ouvriers. Les ouvriers, les oubliés. Oubliés notamment dans les médias. C'est-à-dire que les responsables de programmes, de radio, de télévision, les éditeurs, les producteurs de films, etc., ont un souci, c'est de trouver des sujets qui concernent absolument tout le monde. Alors, on pourrait penser que le monde ouvrier concerne tout le monde, puisqu'il y a 6 millions d'ouvriers, ça fait quand même un public potentiel qui peut s'identifier à des sujets qui pourraient les concerner. Quelqu'un comme Gérard Mordillat, par exemple, avec un livre « Les vivants et les morts », qui a eu un succès considérable, raconte la condition ouvrière aujourd'hui. Ça a été un succès. Or, si j'ouvre ma radio, si je regarde ma télé, si j'ouvre mes journaux, je ne vois pas tellement qu'on parle de la condition ouvrière. Ça devrait marcher, en principe.
Normalement,
et on n'en
oui.
parle pas beaucoup. Voilà, il y a des choses un peu mystérieuses, cette disparition du monde ouvrier qui existe quand même bel et bien. Et là, vous lui donnez, avec ce film de Mémoire d'ouvrier, une visibilité. Et comme d'habitude, vous passez du local au global. Le local, c'est votre coin là-bas d'Alpes, vos vallées et vos montagnes. Vous partez de ça. C'est pas la première fois. Il y a eu un premier film, Ma mondialisation, où de la même façon, vous partiez de problèmes locaux et de conflits locaux et d'histoires locales pour essayer d'agrandir, d'ouvrir jusqu'au global. Et là, c'est la même chose. Vous partez de l'histoire, ça commence à Cluses, vous allez nous raconter le début du film. Et puis, petit à petit, on agrandit la condition et les conditions aussi de cette disparition du monde ouvrier, même si ces ouvriers sont bel et bien toujours là. On entend parler d'eux actuellement avec la campagne présidentielle qui fait que là, ils apparaissent un petit peu. Mmh. C'est un moment où ils apparaissent. Il y a un autre moment où ils apparaissent, c'est quand il y a des délocalisations, à condition qu'ils fassent beaucoup, beaucoup de buzz et qu'ils fassent des menaces et des choses, des prises d'otages de patrons, etc. Dans ces conditions, sinon, on n'en parle plus jamais. Donc, d'où l'utilité de ce film.
Oui, on peut citer par exemple un chiffre, hein. C'est vrai que les ouvriers représentent 23% des actifs aujourd'hui, donc 6 millions comme vous le disiez, et ils n'occupent que 2% de l'espace médiatique, donc c'est très peu. Maintenant vous dites le mystère, par quel mystère ils n'apparaissent plus, je crois qu'il y a quand même quelques éléments d'explication, c'est que tout simplement ça fait quand même 30 ans qu'on nous dit que la production, les ouvriers, enfin la classe ouvrière, ce sont des notions qui sont ringardes et que la modernité n'est pas dans ce sens-là. La modernité c'est on a mis en avant les années tapis, les années 80, où c'était de faire du fric sans forcément travailler. Et puis on a beaucoup travaillé sur la para et pas beaucoup sur le fond. Donc on a ringardisé cette histoire ouvrière d'une façon très 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 accélérée et très très rapide. Et donc du coup, le modèle de la réussite, c'est quand même rarement l'ouvrier qui part à 4h du matin pour prendre son poste. Donc ça c'est une chose. Puis je pense aussi que les faiseurs d'opinion, d'une manière générale, les journalistes, les cinéastes, enfin ceux qui sont susceptibles de donner la parole à ces ouvriers, sont de moins en moins issue de la classe ouvrière et elle ne la côtoie de moins en moins. Donc on parle de ce qu'on connaît, on parle de ce qu'on aime et puis à la limite les ouvriers ça fait un peu peur parce qu'on connaît pas trop quoi.
J'ai aimé construire quelque chose et puis là on voit ce qu'on fait, c'est bâtir quoi.
Bernard Anxionaz.
On a des moments où on est fier de ce qu'on fait quoi.
Prêtre ouvrier.
Et puis on rentre dans une espèce de d'émulation de on se dit tiens et puis allez on va attaquer là, on va coffrer ça, tiens on va faire ça, aujourd'hui on va le couler. On s'entraînait nous-mêmes dans une accélération des cadences. Parce qu'on voulait vite voir l'œuvre de ce qu'on a fait quoi. Mais on a trop tiré dessus et certains ils se sont défaits la santé trop vite. Puis il y avait le gain de l'argent aussi qu'on pouvait faire en faisant des heures, travailler en plus, travailler le samedi. Je leur disais ne tirez pas trop dessus parce qu'un jour votre corps il va lâcher.
On est toujours avec Gilles Perret autour du film De mémoire d'ouvrier qui sort ce mercredi. Alors on va reprendre le film par le commencement. Ça commence à Cluses et là on a un fait divers très oublié. J'avais oublié que c'était la base d'un livre de Louis Aragon, Les cloches de Bâle.
Oui, c'est ça. En fait, c'est une histoire qui se passe donc à Cluses, où au début du siècle dernier, début du 20e, il y a eu une grève des ouvriers horlogers assez longue. Et un jour, les patrons d'une des plus grosses fabriques ont tiré sur les ouvriers grévistes en faisant 3 morts et une quarantaine de blessés. Donc une histoire sociale terrible, hein, parce qu'il n'y en a pas eu depuis quasiment. C'est-à-dire que des morts pendant des manifestations, il y en a eu, mais c'était parce que la force publique s'interposait, que ça dégénérait et qu'il y avait des morts. Mais là, c'était directement du producteur au consommateur, si on peut dire. Et donc, du coup, ça aurait dû marquer l'histoire. Mmh. Sauf que ce qui est intéressant, c'est de voir que cette histoire-là, dans cette vallée, qui est détenue par les petits patrons locaux, qui s'occupent de la culture, qui s'occupent de la politique, qui s'occupent de l'animation, qui font tout, elle n'a pas du tout été transmise. Et si on commence le film avec ça, c'est pour dire qui raconte l'histoire, qui a intérêt à la raconter et qui n'a pas intérêt à la raconter. En l'occurrence, là, les patrons n'avaient aucun intérêt à raconter cette histoire-là.
Enfin, c'est un cas de disparition flagrant, hein.
Oui, oui.
Et d'élimination de la mémoire flagrante, et ça rappelle que l'histoire sociale en France est méconnue, alors qu'il y a un certain niveau de culture. On parle justement de culture, de culturel, d'action culturelle, etc. Sauf pour un domaine qui est notre histoire sociale.
Ça, c'est vraiment une catastrophe. La transmission de l'histoire sociale et l'enseignement de l'histoire sociale. Pour revenir à un film précédent, Walter Retour en résistance, où on parlait du Conseil national de la résistance, quand on a fait la tournée partout en France, on s'est retrouvé dans des cinémas arrêt essai, donc auprès d'un public qui est censé s'intéresser à la question, qui en plus vient voir ce type de film, où 70% des gens ne savaient même pas d'où venait la sécu, en nous disant bah, « Merci, vous nous avez rappelé ça. » Alors ça fait 3 ans, peut-être que depuis ça va un petit peu mieux. Mais voyez, quelque chose d'aussi beau que la sécu, et donc Michel est bien placé pour en parler, quoi de plus beau, quoi de plus humaniste, et de se rendre compte que la quasi-totalité de la population ne connaît même pas la provenance, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, il y a un véritable problème.
Alors voilà, quelqu'un qui essaye de lutter contre ça, c'est Michel Etiévan. On a rappelé votre travail sur Ambroise Croizat. Vous avez collaboré au film, Michel ?
Oui. Gilles m'a demandé, c'est un peu le fil rouge dans le film, notamment sur toute l'histoire sociale qui ponctue sa belle aventure. Et j'ai accepté avec joie, parce qu'il y a un moment que j'attendais que l'on aborde ce sujet, quoi. Surtout particulièrement pour la Savoie, quand on pense que lorsqu'on définit la Savoie, c'est toujours comme une carte postale, des pliants touristiques, la neige, de temps en temps... des ramoneurs, en oubliant encore que ces ramoneurs, ils avaient 6 ans, 8 ans, et qu'ils étaient vendus pour le prix équivalent au prix d'un petit veau à des maîtres ramoneurs. Et l'idée de ce film, moi je trouve qu'il comble une lacune extraordinaire en montrant qu'au fond, la Savoie, elle est à la rencontre de 4 grandes aventures humaines, la terre, le tourisme, le thermalisme, et puis bien sûr l'industrie. Moi, le fait d'être fils d'ouvrier, ça m'a multiplié la vie. Ça m'a ouvert des champs d'espoir considérables, quoi.
Michel, mais qu'est-ce qui s'est passé entre cette vision que vous avez du monde ouvrier, de votre monde d'origine, du monde ouvrier tel qu'il est montré dans le film de Perret, on a presque honte d'être ouvrier aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on est passé de l'un à l'autre? D'où vient ce désenchantement et cette quasi-relégation ?
Il faut simplement regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire française, quoi. Enfin, il y a une nécrologie industrielle considérable. Moi, je regardais des chiffres ce matin avant de venir, là. 400 usines disparues en 3 ans. Des pôles entiers, comme la mine, la sidérurgie, le textile, qui ont fondu complètement. Et ça, évidemment, ça nous renvoie à un état de questions, quoi. On a aujourd'hui des vallées entières qui disparaissent. On ne se rend pas assez compte de ce que c'est que la fermeture d'une usine, quoi. Enfin, moi, la fermeture d'une usine, chez moi, c'est la fermeture d'un produit de haute nécessité. C'est la disparition de la sous-traitance, c'est la disparition de l'agriculture par le lien de l'ouvrier paysan. C'est la disparition des services publics, c'est la disparition d'un siècle de mémoire et d'acquis sociaux.
Les 30 Glorieuses. Tous les ans, les entreprises distribuaient du pouvoir d'achat supplémentaire. Tous les ans, les Français achetaient plus, parce qu'ils avaient plus d'argent dans leur poche.
Le travail, il avait une valeur. C'était beaucoup... Je sais pas, moi, comment expliquer. Moi, j'estime que quand j'ai construit la maison, je gagnais beaucoup plus par rapport à aujourd'hui. Quand je vois les salaires d'aujourd'hui, là...
Marcel Hénard.
Ceux qui travaillent, ils gagnent plus rien. Par rapport à nous.
Ouvrier maçon à Roseland, de 1956 à 1961.
Regardez-nous, moi, je suis pratiquement, même à l'usine, je suis resté au bas de l'échelle parce que j'étais un militant syndical. Eh bien, regardez, on a acheté les terrains, on a construit la maison, on a même construit encore un chalet. Mais on avait un pouvoir d'achat. Mais maintenant, ils travaillent à deux, ils s'en sortent plus. Ça veut dire quoi, le progrès, il est pour qui ? Pas pour ceux qui travaillent, le progrès.
Alors, on est avec Gilles Perret, son film sort demain, mercredi, De mémoire d'ouvrier. Ouais. Il y a un petit mot de John Berger, qui est... John Berger, en
Berger,
oui. Berger, qu'on connaît bien.
Ça dépend.
Comme écrivain et surtout comme critique d'art absolument brillantissime, qui est un gars du coin, enfin, qui est un gars du coin, qui est anglais, mais qui vit dans la région, et qui dit dans ce film... La voix, normalement oubliée, est bien présente. En ce sens, c'est une résurrection, c'est formidable. Donc lui, il est plutôt enthousiaste. Il voit dans le film la résurrection des working class. De la working class et des working class heroes.
Mais je crois que il faut être optimiste. C'est vrai que d'une manière générale, on a vu fleurir. Bon, alors la campagne électorale y est pour beaucoup certainement, mais le mot ouvrier qui avait complètement disparu du vocabulaire revient. Il y a des mots qu'on peut dans la dialectique qu'on peut de nouveau employer sans se faire taxer de stalinien ou je ne sais pas quel adjectif. Donc du coup, c'est plutôt bon signe. C'est bon signe parce qu'effectivement, la crise de 2008 a montré que cette économie uniquement basée sur la finance et sur le service, ça commençait à bugger un petit peu. Donc du coup, les ouvriers redeviennent sur le devant de la scène. Alors, parfois pour de mauvaises raisons, pour indiquer qu'effectivement, ils seraient, je ne sais pas combien, % à vouloir voter pour le Front National.
Mais j'allais en parler de ça. Ouais.
Mais en même temps, moi, je le sens autour de ce film, par exemple, la presse généraliste s'intéresse à ce film-là. Ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques années en arrière, par exemple. Mmh. Donc moi, j'ai toujours espoir. Je trouve que c'est plutôt bon signe de remettre en avant la base de l'économie qui est quand même la production et les ouvriers.
Henri Morandini, justement, là, l'évocation du vote Front National. Est-ce que c'est le cas ? Comment c'est vécu ça de l'intérieur d'une usine comme la vôtre?
Bah écoutez, moi, en ce qui me concerne, soyez rassurés, je ne voterai jamais pour ces gens-là.
Mais ça, on s'en doutait un petit peu, franchement.
Après, les gens qui le votent ne le disent pas. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est triste de voir un ouvrier voter pour le Front National, parce que là, c'est plus que se mettre un coup de pied au cul, quoi. Je veux dire, on est vraiment sur une politique, bon, déjà, qui exclut les gens, mais qui est à l'opposé de ce qui serait bon pour les ouvriers, quoi.
Gilles, pour finir, Où peut-on voir ce film ?
Alors, dans le premier mercredi, donc dès demain, dans une vingtaine de grandes villes, dont Paris, à l'Espace Saint-Michel et au Cédre Parnassien. Et puis ce soir, en fait, à Bordeaux, au cinéma Utopia. Puis ensuite, il y a une centaine de salles de cinéma qui l'ont déjà programmé en décalé sur les mois qui viennent, avec des débats, avec de la réflexion autour de ces questions-là.
Alors, Michel et Henri, vous allez accompagner le film, vous allez animer les débats après.
Oui, on anime déjà depuis un moment. Hein. Les avant-premières, on en a fait pas mal.
Oui, mais là, vous allez sortir de vos montagnes. Là, il va falloir aller partout dans le pays.
Oui, mais il y a quand même de bons duplex depuis Chambéry, Chignin, je connais bien.
Non, mais on arrive à sortir de nos montagnes, hein, rassurez-vous. Hein.
Merci à tous. Donc, le film de Gilles Perret, Deux mémoires d'ouvriers, sort demain. Sur le site de Gilles Perret, vous pouvez avoir toutes les précisions possibles et imaginables. Quant au film d'Olivier Azam, c'est la même chose. Grand Puits et Petite Victoire est projeté, par exemple, dans ces jours prochains à Saint-Gaudens, à Quimper, à Caen. Et le programme est sur le site www.grandpuits-lefilm.fr. Merci à toutes et à tous, les ouvriers, les oubliés. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site de là-bas.org, là-bas.org. Et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, Defar Guéride et Jean-Philippe Jeanne, Bertrand Chometon et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire du Printemps de Bourges Crédit Mutuel du 24 au 29 avril. Jour de musique live, plus de 200 artistes. Camille, Célassou, Django, Baxter Dury, Arthur H, La Grande Sophie, Revolver, Zebda, Tina Riwen et beaucoup d'autres. Retrouvez le Printemps de Bourges dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter et l'Opéra Comique présentent Didon et Aîné. Découvrez ou redécouvrez ce chef-d'œuvre de Purcell porté par la mise en scène poétique et raffinée de Deborah Warner avec les arts florissants dirigés par William Christie. Didon et Aîné du 5 au 8 mars à l'Opéra Comique dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h sur France Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Paul Conroy est en sécurité au Liban, à l'ambassade britannique. Le photographe britannique a réussi à quitter la nuit dernière la ville de Homs, en Syrie, où il était bloqué depuis une semaine. Mais pour Edith Bouvier, la française, difficile d'y voir clair cet après-midi. Paris ne confirme pas pour l'instant l'information d'opposition syrienne ce matin qui affirmait qu'elle avait été évacuée de Homs. Et ses propos semblent étayés par les récentes informations du Croissant Rouge syrien qui dit avoir quitté la ville faute d'accord sur l'évacuation. Sur le plan diplomatique, la délégation syrienne auprès des Nations Unies à Genève a quitté aujourd'hui les débats au Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la situation humanitaire en Syrie. Un nouveau projet de résolution est à l'étude. Il a des visées humanitaires. La France espère que la Chine et la Russie ne s'y opposeront pas. Le Costa Allegra est attendu, lui, jeudi à Mahé, la plus grande île des Seychelles. Actuellement, le bateau de croisière est remorqué par un tonnier breton. Le navire circule sans électricité, c'est-à-dire donc sans lumière ni air climatisé. Conséquence de l'incendie en fait qui a eu lieu à bord hier matin. Un millier de passagers, membres d'équipage sont à l'intérieur. Ils devraient d'ailleurs passer une nouvelle nuit sur les ponts extérieurs du bateau. Un hélicoptère est en route pour les ravitailler en nourriture, mais aussi en téléphone satellitaire. Ils se sont introduits par effraction en décembre dernier dans la centrale nucléaire du Cruas en Ardèche, mais ils ne seront finalement pas condamnés. Le tribunal correctionnel de Privas a relaxé aujourd'hui deux militants de Greenpeace, Yves Renaud.
Julien André et Vincent Roquelaure, les deux militants de Greenpeace accusés de s'être introduits dans la première enceinte de la centrale nucléaire de Cruas en Ardèche le 5 décembre dernier, sont donc relaxés. Le tribunal correctionnel de Privas a décidé d'annuler les procédures de garde à vue et de tous les actes judiciaires qui ont suivi. Le tribunal de Privas qui confirme donc que le chef d'accusation qui avait été choisi de violation de domicile n'est pas adapté à ce délit. Il aurait fallu faire référence à une pénétration de sites dépendants de la Défense nationale. Un délibéré qui exempte donc les deux militants de toute poursuite, à moins bien sûr que le parquet ne choisisse de faire appel dans les 10 jours qui viennent.
Yves Renaud, autre décision de justice aujourd'hui, celle du tribunal correctionnel de Lyon qui a relaxé des parents qui avaient espionné la nourrice de leur bébé en dissimulant un enregistreur dans une peluche. Leur but était de vérifier le traitement subi par leur enfant et non de porter atteinte à la vie privée de l'assistante maternelle. L'avocate du couple se dit réjouie que l'intérêt supérieur de l'enfant ait prévalu. L'enregistrement avait en fait révélé que leur garçon de 2 ans était parqué dans une pièce aménagée en chambre au sous-sol près d'un garage. La fin du marathon de François Hollande au Salon de l'Agriculture. Arrivé à 7h du matin, le candidat socialiste a terminé son parcours cet après-midi, porte de Versailles à Paris, par le stand Limousin où se trouvait Ségolène Royal. Une nuée de journalistes pour les accueillir. Après Bérénice Béjot, Jean Dujardin est donc arrivé cet après-midi à Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport. L'actrice est déclarée épuisée mais heureuse. Pas un mot de l'oscarisé en revanche. Quant à Huggy, le chien qui partage l'affiche de The Artist avec Jean Dujardin, eh bien on apprend aujourd'hui via son maître Dresden qu'il va prendre sa retraite des studios d'Hollywood à l'âge de 10 ans. Merci Huggy, 16h03 sur Inter.
Un jour tout neuf.
Tous les matins, j'ouvre la maison France Inter.
Brigitte Patient.
Et quoi de plus agréable, chers auditeurs, vous êtes là.
D'ailleurs, dans la culture tzigane, l'important, c'est l'autre.
Vous êtes né ailleurs et vous vivez en France.
D'où viens-tu ?
Soyez les bienvenus.
As-tu oublié ta culture ?
Vos passions, vos lieux fétiches, vos rêves, emmenez-nous aussi dans vos jardins secrets.
Je vis dans une photo de Douaneau et dans les décors de Trôneur.
Pour participer à l'émission, laissez-nous un message à l'adresse suivante. unjourtoutneuf@radiofrance.com ou sur le site franceinter.fr.
5h, 6h.
Un jour tout neuf.
Du lundi au vendredi. Sur France Inter.
France Inter.
La différence.
C'est à vous Frédéric Lodéon pour Carrefour de Lodéon.
Bonjour Laetitia. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Merlin. Bonjour Christian.
Bonjour Frédéric.
Donc vous êtes musicologue, vous êtes professeur, vous êtes critique au Figaro et je le dis tout de suite, un des meilleurs critiques musicaux qui soit, parce que ça n'est pas toujours le cas, quelquefois on voit des gens écrire ou parler de musique sans savoir et vous ça n'est pas du tout la réalité. Vous écrivez très régulièrement, vous allez au concert de manière très passionnée, vous adorez les musiciens d'orchestre, vous l'avez prouvé sur France Musique pendant de nombreuses années dans une chronique Et puis, vous avez écrit ce livre, on peut dire ce pavé, c'est vraiment un monument, et ça s'appelle « Au cœur de l'orchestre ». Je vais situer votre vie en dehors de ce que j'ai dit déjà. Donc, critique musicale au Figaro depuis l'an 2000, vous avez collaboré, vous continuez évidemment avec l'avant-scène opéra, vous écrivez en diapason, de nombreuses émissions de radio. Vous avez écrit des livres de vulgarisation, comme on dit, attention de ne pas se tromper sur ce mot, c'est un livre qui permet, le livre de vulgarisation, à tous, à la foule, au peuple.
C'est
connaître.
Pas un livre vulgaire.
Voilà, exactement, c'est... comme certains qui sont peu cultivés.
C'est noble au contraire, la
de
vulgarisation.
Ouais, exactement. Oui. Et donc Wagner, mode d'emploi, Strauss, mode d'emploi, des ouvrages universitaires aussi, le temps dans la dramaturgie wagnérienne. Vous êtes maître de conférence à l'université de Lille et vous enseignez les études germaniques et la musicologie, tout ça. Et malgré cela, vous avez le temps d'aller au concert si fréquemment, parce que je vous lis, moi, presque
tous les soirs. Ah, bah, oui. Mais c'est une drogue, vous savez, on s'en lasse jamais. Il n'y a jamais de saturation. Les gens croient parfois que le critique musical va au concert comme d'autres vont au bureau. Mais non, c'est la fête à chaque fois, ça je peux vous le garantir.
Parce que vous aimez connaît l'orchestre. Parce qu'il y a d'autres, il y a une histoire célèbre d'un critique qui n'est pas allé au concert un jour et puis il a écrit que Madame une telle avait une très belle robe alors que c'était un pianiste, c'était un monsieur. Bon,
Nikita Magaloff.
Nikita, ouais, qui avait un prénom en A, mais pas forcément une dame. Et votre livre Au cœur de l'orchestre, publié chez Fayard, porte une préface de Riccardo Muti, gigantesque chef d'orchestre. Et je trouve que ce qui est le plus beau dans tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a écrit là. Tel qu'il s'est forgé à travers les siècles, l'orchestre représente une des grandes conquêtes du monde civilisé. Il doit être soutenu et développé pour le bien de l'humanité, car la musique, il a mis une majuscule là, la musique contribue à la communication et à la compréhension entre les peuples. Ben ça,
vaste programme.
Vaste programme, parce que pour moi, l'orchestre, c'est une métaphore de la société quand elle va bien, finalement.
Oui, parfois quand elle va mal aussi. Parce qu'évidemment, c'est un groupe humain, forcément, oui. Il y a les petites mesquineries quotidiennes, mais il y a aussi la grandeur, ce qu'on atteint quand on poursuit ensemble un but qui est noble, qui est celui de la musique. Donc c'est effectivement une très très grande invention, surtout à notre époque d'individualisme. C'est une grande leçon de vie en commun, je trouve.
Oui, parce que chacun a son rôle, chacun a étudié son instrument, sa partition, et puis en plus, il doit s'amalgamer à tout un ensemble qui va lui-même se mettre sous la direction d'un chef la plupart du temps, et il faut un peu oublier son ego, en même temps ne pas disparaître du point de vue personnel.
C'est une des choses les plus compliquées. Vous disiez que j'aimais les musiciens d'orchestre, et c'est très vrai, et ça c'est une des choses auxquelles je me suis attaché très tôt en faisant de la critique musicale, c'est de ne pas considérer l'orchestre uniquement comme une entité, comme un tout abstrait qu'on appelle l'orchestre de Paris ou l'orchestre national de France, mais se souvenir que c'est pas seulement un instrument, l'orchestre, ce sont des êtres humains mis ensemble, et c'est extrêmement compliqué, parce que comme vous le dites, la plupart ont une formation d'excellence, ils ont passé les concours les plus prestigieux, les plus difficiles, soumis à la compétition dans leur instrument, et ils mettent toutes ces études très longues et très difficiles finalement au service du tout, du collectif, et ils doivent s'effacer. Et là, on assiste à une chose très compliquée dans l'attitude même du musicien d'orchestre. Dans quelle mesure doit-il nier sa propre personnalité pour la mettre au service du collectif? Ça n'est pas bon. S'il la nie complètement, il donnera moins le meilleur de lui-même. Mais en même temps, il ne doit jamais se mettre en avant. Il ne doit jamais oublier qu'il n'est pas ici comme un concertiste ou comme un soliste, mais comme effectivement le maillage, un maillon dans une chaîne.
Quelquefois des maillons un peu plus brillants, on va l'entendre tout de suite dans cet extrait de Scheherazade de Nicolas Rimsky-Korsakov, puisque successivement, on va entendre quelques accords de harpe, bien sûr la harpe est bien seule la plupart du temps. Il y a le violon solo qui a une place très importante dont on va débattre tout à l'heure. On va entendre un peu de basson, de hautbois, les cordes, le violoncelle, le cor. Enfin bon, dans ces 3 minutes 28, là, il y a déjà une photographie, un instantané de ce que c'est qu'un orchestre symphonique.